France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction et vous, Mathieu Laurent.
Bonjour et bonjour même Marie Laborie, bonjour à toutes et tous. Au sommaire de cette édition, le 18e baromètre sur la perception des discriminations dans l'emploi, un état des lieux entre 2016 et 2024, auquel a contribué notre invitée, la sociologue Myrna Safi. Wafia Kenich nous livrera en amont de notre échange les grands reliefs de ce document. Un institut allemand fait les comptes, les aides militaires à l'Ukraine sont au plus bas depuis 2022, année du déclenchement de la guerre. Les Européens peinent à fournir à Kiev ce qui n'est plus livré par les États-Unis. Nous sommes en ligne de Bruxelles dans un instant. Des chercheurs français publient aujourd'hui une étude dans la revue Lancet Planetary Health qui fait un lien entre les perturbateurs endocriniens absorbés par une femme enceinte et les troubles du comportement subis par son enfant, précision de Tara Schlegel. Au lendemain de l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Premier ministre Sébastien Lecornu estime cette fois que l'État pourra se doter d'un budget avant le 31 décembre, mais, nous dira Rosalie Lafarge, le marathon budgétaire est loin d'être terminé. Les fonds européens dédiés à l'aide militaire à l'Ukraine n'ont jamais été aussi peu généreux. L'Europe peine manifestement à compenser le désengagement américain dont se vante volontiers Donald Trump. Et ce constat, issu de relevés effectués par des chercheurs allemands du Kiel Institute, est articulé au moment où Washington qualifie de faibles les leaders européens. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Fabien, sur quelles données se base cet institut pour arriver à une telle conclusion ?
Eh bien, sur la base des livraisons d'armement déclarées par les alliés occidentaux de Kiev chaque année, les tanks, les véhicules d'infanterie, les batteries de lance-roquettes et autres systèmes de défense antiaérienne, le Kiel Institute recense depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022 les données publiées par les différents gouvernements nationaux. Et ce qui est clair, c'est que cette année 2025, pas encore tout à fait terminée, semble marquer un tournant avec une baisse globale en valeur des équipements fournis à l'Ukraine, principalement à cause de la fin des livraisons américaines, car si les Européens ont su compenser à peu près jusqu'en juin, ils n'ont pas su tenir la distance dans la deuxième partie de l'année. S'ils ne doublent pas leur niveau d'aide en novembre-décembre, 2025 sera l'année la plus faible en valeur depuis 3 ans. 3 pays européens moteurs au sein de la coalition dite des volontaires se sont néanmoins distingués cette année par une hausse de leur contribution rapportée à leur richesse nationale. L'Allemagne devant la Grande-Bretagne et la France, qui reste tout de même derrière les pays scandinaves. L'Italie de Giorgia Meloni, proche de Donald Trump, a en revanche baissé de 15% ses livraisons militaires à Kiev. L'Espagne, conduite elle par le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, qui rechigne à augmenter ses dépenses d'armement, n'a pour sa part, selon le Kiel Institute, fourni aucune aide militaire à l'Ukraine cette année.
Merci à vous, Fabien Cazot, en direct de Bruxelles. La Commission européenne cherche actuellement à piocher, il faut l'ajouter, dans les quelques 200 milliards d'euros d'avoir de la Banque centrale russe gelée dans l'Union européenne afin de financer un prêt à Kiev. Dans une tribune conjointe publiée par le quotidien The Guardian, le Premier ministre britannique Keir Starmer et son homologue danoise Mette Frederiksen appellent à une réforme de la Convention européenne des droits de l'homme afin de lutter, disent-ils, contre l'immigration illégale. Tous deux défendent une modernisation de l'interprétation de cette convention, ajoutant qu'elle doit évoluer afin de refléter les défis du 21e siècle. Rappelons que ce texte qui charpente la justice internationale est un traité signé par les 46 États membres du Conseil de l'Europe qui garantit le respect des libertés fondamentales.
L'Organisation internationale du travail veille elle aussi au respect des droits fondamentaux.
L'OIT et la Défenseur des droits présentent en effet aujourd'hui le 18e baromètre sur la perception des discriminations dans l'emploi. Cet état des lieux fait une fois encore du travail le principal domaine dans lequel s'exerce la discrimination. Dans le même temps, cette étude met en évidence le très faible dépôt de plainte. Les personnes qui subissent ces discriminations hésitent toujours à effectuer des démarches contre leurs employeurs ou recruteurs. Les explications de Wafia Kenich.
Dans ce baromètre, il s'agit de faire un état des lieux de la discrimination dans l'emploi entre 2016 et 2024. Premier chiffre, 35% des personnes interrogées disent avoir été discriminées au cours des 5 dernières années, tous domaines confondus. 43% des actifs estiment que le plus souvent, la discrimination s'exerce lors de la recherche d'emploi et 29% lors de leur carrière. Cette première donnée n'a pas beaucoup changé entre les deux dates. Au moment de l'embauche, la première discrimination serait liée à l'âge, 64%, puis à l'origine, pour 53% des personnes interrogées. Lorsqu'ils sont à la recherche d'un emploi, les actifs perçus comme noirs, arabes ou maghrébins ont 3 fois plus de risques d'être discriminés. Les 18-24 ans sont, eux, 2 fois plus exposés aux discriminations. Ensuite, concernant le déroulement des carrières, là, l'évolution est notable, avec 34% des actifs qui rapportent des propos ou comportements stigmatisants au travail contre 25% en 2016. Racisme, homophobie, sexisme, ces phénomènes délictueux ont donc augmenté. Ces discriminations, on les retrouve aussi sur les trajectoires. Ils ne sont que 51% des diplômés en master ou en doctorat à occuper finalement un poste de cadre. Enfin, 62% des victimes ne font aucune démarche pour faire reconnaître cette discrimination.
Merci à vous, Kenich. Nous sommes en ligne, comme convenu, avec notre invitée Myrna Safi, sociologue, autrice de « Discrimination », un ouvrage publié aux presses universitaires de France. Bonjour madame.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est selon vous le principal enseignement de ce baromètre ?
Le baromètre en réalité d'abord confirme un certain nombre de connaissances qu'on a accumulées ces dernières années dans les sciences sociales qui étudient le phénomène discriminatoire, à savoir que plusieurs facteurs tels que l'âge, l'origine, le genre restent très importants dans l'expérience des inégalités de traitement, notamment sur le marché du travail. La contribution du rapport, c'est surtout de montrer les facettes multiples de cette expérience inégalitaire qui ne se déroule pas uniquement dans le recrutement, un phénomène qu'on arrive à bien étudier avec les enquêtes expérimentales et observationnelles, mais aussi, par exemple, tout au long de la carrière, c'est-à-dire dans la promotion, dans des expériences telles que le licenciement, mais aussi dans le climat social en général dans l'entreprise. Ce sont des choses qu'on arrive un peu moins bien à documenter dans d'autres enquêtes.
Cette augmentation du ressenti sur les propos et comportements discriminants se retrouve dans les études de chercheurs. Est-ce que cela s'interprète dans le climat en s'inspirant, en tenant compte du climat politique ambiant ?
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que quand on pose la question aux individus de déclarer des expériences de discrimination. Il y a déjà une multitude de manières de leur poser la question, ça peut affecter leurs réponses. Donc ce qu'on capte finalement, c'est beaucoup la subjectivité. Par ailleurs, il y a effectivement des biais liés à ce type de questions. Mais c'est très important quand même d'interroger les individus directement parce qu'on peut comprendre les effets de contexte. Par exemple, typiquement, les études sur les données déclaratives montrent que ces dernières années, les déclarations de discrimination des femmes ont augmenté de manière très forte. Et donc, on sait que cela est lié, par ailleurs, à un contexte qui fait que la conscientisation de ces discriminations est aussi plus forte. Que ce n'est pas uniquement ce qu'on mesure ici, ce n'est pas uniquement une augmentation factuelle, mais aussi ce qui se passe dans la conscience, dans le débat public, et aussi la capacité d'en parler.
Et ça vient d'être souligné par Wafia, les 18-24 ans sont 2 fois plus exposés aux discriminations. Là encore, peut-être est-ce compliqué dans la formulation des questions à leur poser pour justement avoir un rendu et des relevés ?
Oui, alors en fait, on peut aussi imaginer que ces questions capte toute une espèce de sentiment qui existe chez les jeunes personnes d'injustice, de difficultés à trouver des emplois, etc. Mais il faut aussi quand même souligner que les enquêtes, les études méthodologiques révèlent que les personnes n'ont pas tant que ça tendance à exagéré dans ses réponses. Au contraire, en fait, le mot discrimination en soi est un mot qui sonne en fait avec une connotation forte, c'est-à-dire que dans la tête des individus, souvent, ce mot a un sens presque légal, donc ils prennent presque des précautions à ne pas trop interpréter les phénomènes discriminatoires de manière trop laxiste, si j'ose dire. Donc, on se rapproche. Et puis, par ailleurs, il faut quand même rappeler que les résultats du rapport du défenseur des droits se convergent en fait avec avec beaucoup de résultats qu'on a, qui utilisent des méthodes expérimentales, où là, on contrôle vraiment le facteur qu'on signale, par exemple dans le CV. Et donc, converge avec ces résultats. Mais comme je le disais, apporte en plus des connaissances sur des domaines qu'on arrive moins bien à capter, comme par exemple les augmentations salariales, la promotion. Et puis surtout, les micro-agressions dans le monde du travail, qui là révèlent quand même quelque chose sur le climat, si vous voulez, social, aussi dans le monde de l'entreprise.
D'un dernier point, Myrna Safi, 62% des victimes ne font aucune démarche pour faire reconnaître la discrimination. C'est un point important de ce baromètre.
Oui, c'est un point important et malheureux en quelque sorte, mais c'est vrai qu'il faut rappeler que les discriminations, c'est quand même une expérience douloureuse et que ça porte atteinte à la dignité humaine, ça crée un sentiment d'injustice fort parce que c'est une inégalité d'opportunité qui est un peu en dissonance avec les valeurs démocratiques, mais aussi, peut-être on n'y pense pas assez, c'est que ça fait mal aux personnes. Donc, en fait, on sait qu'il y a des effets sur la santé mentale, sur l'investissement dans le capital humain, c'est-à-dire le fait de se performer, d'apprendre, de faire des études, mais aussi sur les performances des gens, sur la cohésion sociale, etc. Donc, étant donné tous les préjudices que ce type d'expérience affecte ou porte aux individus, c'est pas très étonnant que c'est pas la première chose à laquelle ils pensent de se plaindre ou d'utiliser des recours. Mais il faut quand même signaler que quelque chose qui ressort vraiment dans le rapport, c'est qu'en fait les femmes ainsi que les personnes en situation de handicap vont plus souvent faire des recours. Ce qui semble indiquer que quand il y a des régulations claires quand même, parce que sur le genre et sur le handicap on a des régulations claires, ça crée quand même un phénomène d'empowerment, ça veut dire en fait ça aide ces personnes quand même à aller porter recours, ce qui n'est pas le cas par exemple pour l'origine encore en France, qui est un des facteurs les plus forts de discrimination, où les gens hésitent beaucoup à faire des recours.
Merci beaucoup. Merci Myrna Safi, sociologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'autrice de Discrimination, au pluriel, un ouvrage publié aux Presses universitaires de France. Merci à Loïs Guérin pour la préparation.
On vient de parler de santé mentale. Eh bien, des perturbateurs endocriniens sont soupçonnés de provoquer des troubles du comportement chez l'enfant.
Oui, c'est une molécule que l'on trouve dans nos produits de beauté, dans les emballages alimentaires. C'est la conclusion de la plus grande étude menée sur le sujet par des chercheurs français. Elle est publiée aujourd'hui dans la revue Lancet Planetary Health. Plus de 1000 femmes enceintes ont été suivies, ainsi que leurs bébés. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour Mathieu.
Tara, vous nous dites plus, à la fois sur la méthodologie et sur les effets, les résultats de cette étude.
Deux cohortes ont été étudiées, la première par des chercheurs essentiellement grenoblois, associant INSERM, CNRS, CHU, université. Cette équipe a suivi 417 femmes en France entre 2014 et 2017. La seconde cohorte est espagnole, suivie par des chercheurs de Barcelone essentiellement. Elle comprend 607 femmes enrôlées entre 2018 et 2021. Chez toutes ces futures mamans, on a voulu mesurer l'exposition à 12 polluants, dont 5 bisphénols et 4 parabènes. Pour ce faire, on a prélevé de l'urine de ces femmes enceintes pendant leur deuxième et troisième trimestre de grossesse, plusieurs prélèvements par jour sur 6 à 7 jours consécutifs, afin de distinguer finement, ce qui ne s'était jamais fait dans une étude, l'imprégnation de ces mamans aux différentes molécules. Pour les enfants, cette fois, les chercheurs ont demandé aux mères de remplir une Child Behavior Checklist, qui mesure donc scientifiquement le comportement behavior des enfants. Ils ont été testés à 18 mois et à 2 ans. Ces questionnaires ont permis de comparer le développement des bambins.
Tara, quels sont les enseignements de cette étude? Voit-on des effets concrets de certaines molécules?
Oui, l'étude montre bien un effet significatif, mais seulement de certaines substances dans certaines circonstances. D'abord, les petits garçons sont particulièrement sensibles au bisphénol S, souvent utilisé comme contenant alimentaire en remplacement du bisphénol A, lui-même interdit largement en France et en Europe, car toxique. Les travaux montrent que, exposés au bisphénol S in utero au troisième trimestre de grossesse, les garçons adoptent des comportements dits d'internalisation, c'est-à-dire des comportements anxieux, de tristesse, de retrait en soi. L'étude montre aussi un lien, mais moins significatif, toujours pour les garçons, entre ce bisphénol S et des comportements d'externalisation, donc agressifs et d'opposition. Les filles, elles, sont globalement un peu moins sensibles, elles réagissent aux parabènes en deuxième trimestre de grossesse, en adoptant des comportements anxieux, dépressifs et agressifs. Pardon, c'est pas facile à dire. Hein. Et chez tous les enfants, on voit que le méthylparabène a un effet statistiquement significatif lorsque la maman est exposée après 6 mois de grossesse. L'exposition rendrait les bébés d'abord plus agressifs et opposants, mais aussi un peu plus dépressif et triste. Bref, les chercheurs sont particulièrement inquiets, notamment à propos du méthylparabène, parce qu'ils rappellent que son caractère de perturbateur endocrinien n'est même pas aujourd'hui considéré comme certain, alors qu'ils voient, eux, un effet en vie réelle.
Merci à vous, merci pour toutes ces explications, Tara Schlegel.
Est-ce là le premier pas sur le sentier escarpé du parlementarisme ?
La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, salue une victoire collective. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, y voit la preuve que le compromis n'est pas un slogan. Mais si l'exécutif peut souffler après l'adoption de justesse hier soir au Palais Bourbon de son projet de loi de financement de la sécurité sociale, eh bien, Rosalie Lafarge, le marathon budgétaire est loin d'être terminé pour autant.
D'abord, le budget de la sécurité sociale n'est pas encore définitivement adopté. Il doit repasser au Sénat, où il est inscrit à l'ordre du jour vendredi. Tel que l'Assemblée l'a réécrit, il ne convient évidemment pas à la majorité sénatoriale de droite. Mais plutôt que de le retravailler pour rien, elle devrait directement le rejeter, scénario à 7 heures privilégié. Le texte reviendra ensuite à l'Assemblée pour cette fois une dernière lecture prévue mardi. Le résultat sera-t-il le même qu'hier soir ? Des votes peuvent-ils basculer après un week-end en circonscription ? Ne jamais crier victoire trop tôt. Et puis derrière, il y a l'autre texte, le projet de loi de finances pour 2026. Si hier, l'improbable est devenu possible, on en est encore très loin pour le budget de l'État. La tâche pourrait même être devenue plus compliquée encore depuis ce vote de compromis. C'est en tout cas l'avis du ministre de l'Économie. Pour Roland Lescure, la barre est remontée d'un cran puisque le texte adopté aggrave le déficit de la sécurité sociale par rapport au projet initial. Il faut donc trouver des milliards supplémentaires. 4,5, dit-il, dans le cadre de la discussion du budget. Actuellement examiné au Sénat, qui doit le voter lundi, ce budget passera ensuite en commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs qui tenteront de trouver un accord. S'ils y parviennent, cet accord sera soumis au Parlement la semaine de Noël. Mais le gouvernement envisage déjà l'option inverse. Pas d'accord, on est hors délai, la discussion doit se poursuivre en janvier. Dans ce cas-là, comme l'année dernière, il faudra adopter une loi spéciale avant la fin du mois pour permettre à l'appareil d'État de fonctionner en l'absence de budget.
Venons-en à cette réaction hier soir du président du Rassemblement National après le vote solennel du budget de du financement de la sécurité sociale. Ce soir, j'ouvre les guillemets, un budget de la sécurité sociale de punition et de taxation a été voté, déclaré hier Jordan Bardella qui ajoutait « Nous tendons la main à tous les électeurs de droite qui refusent cette compromission. Un autre chemin est possible, celui qui mène à l'union de nos forces pour le redressement de la France. » Fin de citation. Bonjour Nicolas Ballu.
Bonjour.
Nicolas, peut-on dire que c'est la première fois que Jordan Bardella propose une union des droites?
Alors, ce n'est pas la première fois qu'il dit tendre la main aux électeurs de droite, mais il le fait de plus en plus souvent. Et l'expression « union des forces » n'est pas l'union des droites, mais il y fait bien sûr référence. Cette union qui ne fait pas partie du vocabulaire habituel du RN, l'antienne de Marine Le Pen et du RN dans toute son histoire, c'est ni droite ni gauche. En écrivant son tweet, Jordan Bardella a surtout sauté sur l'occasion, 18 députés LR ayant voté pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale et donc de nouvelles taxes, selon Laurent Jacobelli, député et porte-parole du RN.
C'est contraire à la doctrine de la droite. Et donc c'est pour ça que nous disons à tous les déçus de Laurent Wauquiez, de Bruno Retailleau et de tous ces grands pontes de la droite qui passent leur temps à trahir, nous ne vous trahirons pas. Si vous voulez plus de sécurité, moins d'immigration et moins d'impôts, eh bien nous avons un objectif commun. L'union des droites, ça sous-entendrait qu'il y a un accord entre partis. Comment voulez-vous qu'on fasse un accord avec les dirigeants LR qui sont complices de la Macronie, qui acceptent de voter pour un budget socialiste? En revanche, l'union des électeurs, oui, elle doit se faire.
Voilà, comprenez, le RN, c'est la vraie droite, selon lui. Le RN qui surfe aussi sur les déclarations récentes de Nicolas Sarkozy ou d'un Bruno Retailleau, selon qui l'union des droites doit se faire dans les urnes. Donc, si cette notion gagne du terrain, surtout dans la droite classique, les contours restent très flous et les dirigeants divisés. Ce qui se révèle surtout, c'est l'émancipation progressive de Jordan Bardella. C'est lui qui réagit après le vote du budget, pas Marine Le Pen. C'est sa stratégie à lui qu'on entend, celle qui consiste à s'adresser à la droite et aux grandes entreprises, quelles que soient les propres contradictions du groupe RN à l'Assemblée sur les taxes. C'est, dans le fond, la poursuite d'une stratégie d'un candidat de substitution pour le RN, à la présidentielle, par exemple.
Merci à vous, Nicolas Ballu. Dans un peu plus de 10 minutes, l'Institut Nobel de Norvège remettra le prix Nobel de la paix, non pas à sa lauréate, Maria Corina Machado, mais à sa fille. En effet, l'opposante vénézuélienne qui vit dans la clandestinité depuis août 2024, après une élection présidentielle à laquelle elle a été empêchée de se présenter, serait en sécurité, on ne sait où précisément, elle devrait arriver à Oslo dans la nuit. Quelques mots de météo pour refermer ce journal, temps gris et pluvieux de la Nouvelle-Aquitaine aux Ardennes, de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'au Hauts-de-France, ciel variable, de l'Alsace à l'est de Rhône-Alpes et jusqu'au nord de PACA, sur l'est des Pyrénées, le soleil l'emporte. Et ce journal a été préparé avec Axel Dubois, à la technique Minetta Diawara.